Paul Alexis, à quoi rêvent les vieilles filles? Non seulement Annette Leverdure avait toujours demeuré sur le versant nord de la butte Montmartre, rue Ramey, mais depuis sa naissance, elle en portait une sur elle de butte, aussi disgracieuse que gênante, dont à coup sûr elle se serait passée, ce qui ne l'empêchait point d'en parler, à chaque instant, avec un sourire jadis mélancolique, mais dont l'amertume s'était adoucie à la longue. 20 fois par jour, chez l'épicier, le fruitier, la crémière, ou chez ses concierges, quand elle était s'offrait un bout de causerie dans la loge, et chez les personnes où elle allait en journée, ou sur son palier, quand elle voisinait en rentrant, même dans sa petite chambre mansardée, lorsqu'elle se trouvait seule avec Mamour, son chat, et Coco, son vieux serin, Chéri, devenu obèse. La vieille fille, à propos de tout et de rien, faisait intervenir ma butte. Le ciel se couvrait, par exemple. Elle présidait. Nous allons avoir de l'eau. Ma butte m'avertit. Ou encore, dans un besoin subit d'effusion et de câlinerie, s'adressant au serin obèse, Coco, mon coco aimé, vite une bûchette sur la butte à tonnerre. Or, sa butte consistait en une difformité terriblement apparente. Elle vous avait une joue beaucoup plus grosse que l'autre, grosse si monstrueusement que, regardait-on Annette de face, de profil, même par derrière, il était impossible de ne pas apercevoir, dépassant de quelque part, cette montagne rouge. Toute une succession de contreforts séparés par des ravins bleuâtres et aboutissant à tout mamelon central escarpé que terminaient des poils vivaces et têtus. Ils avaient repoussé, plus dans chaque fois qu'elle s'était décidée à les arracher. Et non seulement ce fâcheux carcan d'une nature marâtre, de près ou de loin, ne pouvait passer inaperçu, quand par l'harmonie des lignes et blessant douloureusement le regard, mais cette butte avait dominé sa vie, pesant dès le bas âge sur Annette Leverdure, comprimant d'abord ses envies de jouer, étouffant plus tard son besoin d'aimer, écrasée sous cette excroissance, elle n'avait eu ni l'enfance ni de jeunesse. Gamine, son corps, de peur de raillerie, ne s'était pas développé à courir au grand air, à sauter à la corde avec ses autres gamines. Adolescente, son cœur pétrifié n'avait connu ni les délicieux émois de l'instinct qui s'ignore, ni les révoltes tumultueuses, les troubles, les cuisants, mais non sans charme, de tempérament comprimé. Son intelligence elle-même s'était peu développée. Enfin, aujourd'hui, après une existence plate, n'ayant jamais fait que manger, boire, dormir, tirer l'aiguille mécaniquement et recommencer le lendemain, ne sachant ni lire ni écrire, avec quelques rabâchages et carcans de quartier pour nourriture intellectuelle, voilà que cette place, plante humaine, malvenue, arrivait à l'âge où la femme n'est plus femme, et qu'il avait, elle, qu'il avait si peu été. Annette ne subit pas moins les contre-coups et les inconvénients d'une crise qui, équitablement, aurait dû lui laisser passer par-dessus la tête. Vers la 40e année, cette vieille fille était devenue dévote. Une fenêtre s'ouvrait pour elle sur quelque chose de sans fond et de mystérieux. L'attrait de l'au-delà, un intérêt nouveau et passionnant, remplirent tout à coup le néant de sa vie végétative. Maintenant, chaque soir, dès qu'elle avait une heure à elle, le dimanche jusqu'à 3 fois par jour, ses jambes osseuses, mal en chair, aux articulations déjà raidies, comme si elle s'était ranimée à force de ne jamais trouver vers le plaisir ou la passion, se dirigeait d'elle-même vers la chapelle provisoire du Sacré-Cœur. L'ascension lui coûtait, bien qu'elle avançât très lentement, parfois au milieu des hauts escaliers ou pendant la montée des pentes rares, raides, il fallait s'arrêter, reprendre haleine. Mais en retournant la tête à travers quelques palissades à claire-voie ou dans le large espace creusé à ses pieds, quelle vue! Ce qu'on appelle la plaine de Saint-Denis, c'est-à-dire le revers de Paris, le trop-plein d'une capitale, un débordement de rues, de buissons, de cheminées et d'usines, des fumées de trains en marche, invisibles derrière les constructions, et ça pendant des yeux, jusqu'à un horizon de coteaux lointains, évanoui dans la lumière. Enfin, une fois massée et assise dans la petite chapelle, quelle satisfaction profonde entre le bien-être tout physique qu'elle prend, qu'on est, une bonne odeur spéciale où traînaient les émanations d'encens affaiblis, la vue de quelques cierges allumés devant le maître-autel lui dégelait le cœur. Pourquoi son sang circulait-il mieux? Que germait-il dans son cerveau, stérilisé par un demi-siècle de torpeur? Pour la première fois, elle se sentait vivre. L'ombre épaisse, la noirceur émouvante de certains recoins, un fond desquels rougeoyait la lueur de quelques lampes mystérieuses, lui faisait courir le long de l'échine un frisson nouveau. Elle, à qui n'était jamais rien arrivé, elle pénétrait dans de l'inconnu qui se chargerait d'un jour en bonheur céleste aux éternelles délices. Aussi, ce qui ébranlait davantage ses nerfs et noyait le plus voluptueusement son cœur, ce n'était ni la pompe des grandes messes chantées, ni le théâtral des vêpres solennelles et des bénédictions données au son de l'harmonium, à la chapelle pleine, l'encens fumant et tous les cierges allumés. Et devant ces clartés de fête, au milieu de la foule endimanchée des fidèles, elle ne savait plus ou se fourrer. Et voilà que la honte de sa difformité la reprenait. Et tandis qu'il lui fallait l'ombre, le silence, la solitude, alors elle arrivait à l'aube de préférence. Dès que sonnait l'Angélus, avait la première messe avant, ou bien tard, après les cérémonies du jour, lorsque les rangées de chaises s'alignaient vides dans la nef obscure, à peine quelques dévotes comme elle, çà et là, dans des coins perrants prosternés, et près de l'entrée, comme un pilier, quelques vieux pauvres s'effaçant dans du noir, parfois endormis. Mais elle n'avait jamais été aussi éveillée, se faisant sans pas de marmotter les Ave Maria du rosaire, s'exaltant à mesure que s'égrenaient les 15 dizaines passées au mur de Parnobis, des litanies, enfin, les genoux endoloris, elle partait la dernière, après que le bedeau était venu lui dire « On ferme !» et les mains encore jointes, la tête basse sous sa capeline et les lèvres restées murmurantes, elle descendait d'abord la rue de la Bonne, si rapide, déserte, bordée de longs murs de jardins que soutenaient les autres phares, et au bas de la butte, pente, là où le dernier réverbère, une lanterne à bois, à bonne sens suspendue par des cordes, éclairait faiblement, elle tournait à gauche pour entrer dans l'étroite rue Saint-Vincent, toute noire. Mais loin d'avoir peur, même en passant devant la porte du petit cimetière, il lui semblait que l'ombre et la paix tutélaires de la chapelle l'enveloppaient toujours, la protégeait encore contre les vivants et les morts. Son exaltation délicieuse durait encore et elle ralentissait au contraire les pas tant elle aimait ce chemin solitaire. Une nuit d'hiver, sortie très tard de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, elle s'en retournait quand même par son chemin de prédilection. Il avait plu tout le jour. Une boue épaisse assourdissait les pas comme un moelleux tapis. Et il faisait noir partout. Un brouillard opaque s'était levé. Le dernier réverbère, ce soir-là, ne répandait qu'une lueur bleuâtre, jaunâtre, vacillante, tout juste de quoi faire paraître plus sombre encore la nuit Saint-Jacques, la rue Saint-Vincent, où Annette s'engagea. Ses galoches s'enfonçaient dans la boue comme dans de la ouate. Elle avançait qu'à tout petit pas, presque à tâtons, pour ne point se buter contre les nombreux contreforts faisant saillie au pied de la haute muraille de gauche. Toute noire, sur sa droite, la clôture en planche bordait le précipice des jardins en pente, se confondait avec le noir du ciel. La conscience en paix, l'âme légère, avec l'émotion douce de se trouver au fond de toutes ces ténèbres. Là au moins, elle ne se sentait plus difforme, risible. Quelle délivrance! Quelle sécurité! Et vers le milieu de la rue Saint-Vincent, à l'endroit où le plus étranglé, elle ralentissait encore le pas. Et tout à coup, son sang ne fit qu'un tour, un contact inattendu, las de doute, pas de doute, on la touchait. Une main la saisit, une main mystérieuse, audacieuse, appartenant à un être qu'elle n'avait pas vu, là, dans le brouillard. Annette cria, un mouchoir roulé en panse lui fit aussitôt appuyer sur la bouche, et elle étouffa son cri. Elle suffoquait d'épouvante, les jambes lui frageolaient, et l'homme s'en était un qui venait d'émerger du brouillard, ni petit, ni grand, ni jeune, ni vieux. Son visage, elle ne le distinguait même pas, n'eut pas besoin de la pousser très brutalement pour qu'elle tombât assise sur un tas de sable qui se trouvait déjà là, malgré la pluie de la journée. Et l'homme était devant elle, à genoux dans le sable. Que lui voulait-il ? La tuer ? Comme ça, sans motif ? Un fou peut-être ? Non, la voler plutôt. Elle se rappela qu'elle n'avait sur elle 43 sous. Sa fortune, eh bien, elle en faisait volontiers un sacrifice pour cet individu sans travail, sans doute plus pauvre qu'elle. Attendez, monsieur, je vais vous donner ce que j'ai, fit-elle sur le point de dire poliment. Et elle envoyait déjà la main à sa poche lorsqu'une seconde poussée la renversa sur le dos. Alors elle comprit. Que faire ? Appeler ? L'inconnu lui fermait de nouveau la bouche, mais avec la sienne cette fois. Des lèvres enflammées lui écrasaient les lèvres. Un effort suprême pour se dégager. Mais autrement vigoureux qu'elle, ayant en plus l'avantage de la position, l'homme sans peine la maîtrisait. Tout à coup, une cuisante douleur, puis elle ne sentit plus rien, et passive, anéantie, ferma les yeux. Tout là-bas, aux confins de la route, bute dans la nuit, un sifflement prolongé, douloureux, quelques locomotives du chemin de fer de ceinture. Satisfait, l'homme rentra dans le brouillard, bien vite. Et lorsque le bruit de ses pas précipités se fut effacé dans la nuit, Annette le Verdure put encore se traîner jusqu'à la rue Ramey. Elle sonna. Par exemple, une fois devant la loge, prise de faiblesse, elle tomba de tout son long. Relevée par la concierge qui l'aida à remonter dans sa chambre, elle raconta tout. Mamour, lui, restait indifférent, et Coco, le vieux serin, chéri devenu obèse, n'en approcha pas moins de son caressant de la bubute mémère. Et dès le lendemain, matin, son importance, monsieur le concierge, prit sur lui d'aller au nom de la victime, ma locataire, porter plainte au commissaire de police. On ne retrouvera jamais le coupable. Mais l'histoire fut du bruit, prit des proportions. Des journaux, à leur tour, des journaux à un sou, à l'affût de l'actualité, parurent avec des manchettes en grosses lettres. Le viol de la butte, l'horrible attentat de la rue Saint-Vincent. Des reporters venus pour interroger Annette furent reçus par le concierge qui leur raconta le drame à sa façon. Ces messieurs, à leur tour, amplifièrent, renchérirent les uns sur les autres, dramatisèrent. Des reporters venus pour interroger Annette furent reçus par le concierge qui leur raconta le drame à sa façon. Et ces messieurs, à leur tour, amplifièrent, réenchérirent les uns sur les autres, dramatisèrent. Maintenant, deux rôdeurs nocturnes, au lieu d'un, avaient assailli, bâillonné, volé d'abord Annette. Puis, la faisant passer par-dessus le mur bas du cimetière Saint-Vincent, les deux, à tour de rôle, avaient abusé d'elle et sur la pierre froide d'une tombe. À l'aube, le gardien du cimetière l'avait trouvée là, encore ligotée, presque nue, morte de froid et de frayeur. Certains meubles, peu aimables pour le gardien, donnaient à attendre que celui-ci, de sa fenêtre, avait assisté à tout, mais sans intervenir, par lâcheté. Annette resta 24 heures alitée et fit peu de part de ses journaux. Endolorie, mélancolique, elle serrait tout le temps Mabour dans ses bras, plus fort que d'habitude, et de sa cage, Coco lui envoyait des kiné-kiné consolateurs, tandis que Mamour, heureux d'être au chaud, ronronnait, puis, bien qu'il lui manquât qu'une pièce de 10 sous, probablement tombée de sa poche pendant la bagarre, dès le surlendemain, la modicité de ses ressources la força de retourner travailler. Et il lui sembla, peu à peu, que rien ne s'était passé d'extraordinaire dans sa vie. Les gars, gens chez qui elle faisait des journées, leur première curiosité satisfaite, ne l'accablaient déjà plus de questions sur son malheur, devenu de l'histoire ancienne. Ils finirent même, à la longue, par lui éviter le genre de leurs condoléances. Et son ardente dévotion ne s'était en rien refroidie, aimant plus encore qu'autrefois l'ombre, la solitude et la paix profonde de la chapelle provisoire de Saint-Sacré-Cœur. Elle en revenait aux mêmes heures tardives, par exemple en faisant un grand détour pour ne plus repasser par la rue Saint-Vincent. L'hiver s'acheva. Maintenant, il faisait doux. Les sèves vernissaient. Certains bourgeons prêts à écloser. La jeune verdure était tendre au regard. Une sorte d'ivresse générale montait, pénétrant les êtres, et font en même les choses. Tous les lilas de la butte déjà en fleurs embaumaient l'air, surtout le soir. Le soir aussi, Annette, revenant de la chapelle, passait de nouveau par la rue Saint-Vincent et arrivait au milieu, devant certains tas de sable, loin de hâter le pas, elle le ralentissait aujourd'hui, tournant, sentant et humant la bonne odeur des lilas à travers la clôture en planche, écoutant les rossignols au milieu du petit cimetière chanter pour les morts. Elle ne s'en allait plus, comme si elle eût attendu quelqu'un, espéré quelque chose. Paul Alexis.